Fabien Bardinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Balio. Nous sommes avec vous à l'European Large Event. Vous rencontrez des investisseurs. Alors après une introduction en bourse qui avait été réussie, alors le parcours boursier, on va en reparler. On va pas en parler tout de suite. On va parler de votre activité. Comment se porte-t-elle déjà?
Bah écoutez, l'activité se porte bien. L'entreprise a une croissance importante cette année. On va faire entre 60 et 70% de croissance dans l'année, ce qui est une croissance très supérieure à la moyenne des croissances sur notre secteur d'activité. On a eu un peu de difficulté au premier semestre parce que on a une croissance forte et donc il a fallu la gérer. Mais au-delà de cette difficulté passagère, on reste sur un marché qui est colossal avec des partenaires exceptionnels et donc un potentiel de croissance qui n'a pas changé et qui reste magique.
Je parlais de la bourse. Est-ce que vous avez une explication? Parce qu'on est à peu près à la moitié du cours d'introduction sur ce qui s'est passé. Parce que bon, vous aviez quand même des perspectives de croissance. Vous aviez ce que vous venez de raconter. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
Bon, il y a des conditions de marché qui sont un peu difficiles en ce moment. Et dans ces conditions de marché, on a sans doute un peu déçu sur nos résultats S1. Les gens nous attendaient très haut. Alors on a livré une croissance importante, mais sans doute pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et donc ça a sans doute créé un peu d'inquiétude sur notre capacité à livrer le plan tel qu'on l'a imaginé. Mais il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, il n'y en a même aucune. On est en train de livrer le plan, on est un petit peu en dessous. C'est la vie normale des entreprises qui ont notre croissance. Encore une fois, c'est des croissances significatives, donc entre 50 et 100%. On a fait 200% de croissance l'année dernière, on va faire entre 50 et 100 cette année, donc des croissances très fortes. Et donc quand on a ces croissances très forte, ben, de temps en temps, il y a des petits aléas. Et c'est la vie des entreprises comme la nôtre. Et on est content d'avoir des entreprises, des actionnaires qui nous soutiennent dans cet effort-là. Et donc, il n'y a pas vraiment de sujet, en fait. Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, je ne comprends pas vraiment la chute du cours de bourse.
Alors, on parle avec vous de chariots autonomes, de véhicules autonomes. Hein. C'est effectivement ce que vous avez développé au cours des dernières années. Souvent, quand on parle de ça, on parle de révolution. Concrètement, les développements que vous avez faits, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça change dans ces entreprises qu'on appelle 4.0?
Alors, c'est assez simple. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend un chariot de manutention, on en a tous connu dans notre vie, et on enlève le conducteur. Le conducteur sur un chariot de manutention, c'est 80% du coût. C'est un métier qui est dur, qui abîme les gens qui conduisent ces machines, et c'est un métier qui a vocation à disparaître. C'est très facile à comprendre. C'est difficile d'imaginer qu'il va y avoir des voitures autonomes sur nos routes, et on est tous convaincus qu'il va y en avoir, et des hommes ou des femmes qui vont conduire des chariots de manutention dans les entrepôts. Non, ça n'arrivera pas. Donc, avant qu'il y ait des voitures sur les routes, il n'y aura plus personne qui conduiront ces engins autonomes. Ces engins autonomes, c'est 7 millions de conducteurs aujourd'hui. C'est 200 milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans pour bouger les palettes. Eh bien, on va dépenser, l'industrie au sens large au niveau mondial va dépenser deux fois moins en faisant en sorte que on crée encore plus de valeur et qu'on la répartisse de façon différente. Cette transformation profonde de la société qu'on a engagée, c'est ça le métier de Balio. C'est permettre aux entreprises de dégager de la valeur et de focaliser leurs équipes sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.
Il y a bien sûr de la technologie, des développements que vous avez mis au point. Aujourd'hui, effectivement, on pense d'abord à la distribution. Hein, on pense à Amazon pour ceux qui ne pensent qu'Amazon. Mais il y a beaucoup de distributeurs qui sont concernés aussi, beaucoup d'usines, d'entreprises. Finalement, ça se loge un peu partout.
Alors, notre métier, encore une fois, c'est de bouger les palettes. Donc, là où il y a le plus de clients, c'est là où il y a le plus de palettes. Donc, le premier consommateur de ces véhicules, ce sont les gens qui font les produits de grande consommation. Donc, c'est tous les produits qu'on achète dans notre quotidien. 100% des produits qu'on achète sont passés à un moment sur une palette. Et donc, on déplace ces palettes. C'est 200 milliards de mouvements de palettes tous les ans au niveau mondial. C'est un chiffre absolument colossal. De façon paradoxale, ça a commencé par les usines plus que par les centres de distribution. On est en train d'arriver dans les centres de distribution, mais c'est toute la chaîne logistique qui commence à peu près au moment où les produits sont mis en palette à la fin de leur production, jusqu'au moment où ils rentrent dans le système de distribution, c'est-à-dire au moment où on défait les palettes. Là, il y a d'autres systèmes d'automatisation. Notre métier, c'est tout ce qui se passe entre les deux.
Alors, je connais effectivement sur la bourse et la vie des vendeurs de chariots élévateurs, hein, et pas que, mais notamment de chariots élévateurs. Ils n'ont pas pensé à cette partie-là, quand vous êtes arrivé sur ce marché, parce que ça voulait dire que ce marché n'était pas pourvu.
Alors, on travaille avec des fabricants de matériel de manutention. Hein. On a deux partenaires. On a Linde Material Handling, c'est la marque Fenwick en France. Et on a Isoriel Group aux États-Unis. Et donc, on s'est associé avec eux. Donc, nous leur apportons notre technologie, notre savoir-faire, notre capacité à transformer leurs chariots. Et eux apportent leurs chariots de base et on fait ça ensemble. Donc, on est associé avec des grands fabricants de matériel de manutention. Et c'est une des forces de notre modèle, c'est de ne pas créer des nouveaux véhicules, mais d'utiliser les véhicules existants. C'est-à-dire les véhicules standards, pas ceux qui sont existants chez nos clients. On les transforme, on les change. Mais donc, on s'est associé avec eux. Ils sont venus nous voir pour qu'on fasse ça ensemble. Donc, c'est un travail conjoint.
Du côté justement de cette croissance, donc ce qui est difficile à gérer aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a trop de croissance d'un seul coup, et donc en termes de vous derrière, il faut effectivement toute l'organisation pour que ça puisse répondre à la demande.
Oui, il faut construire les équipes. 100% de croissance, c'est un doublement de la taille de nos équipes. C'est structurer les équipes de management. Je suis arrivé chez Balieu il y a 5 ans, il y avait 25 personnes et on faisait pratiquement 0 euros de chiffre d'affaires. On va faire 25 ou 27 millions d'euros cette année, on est 180. Il a fallu constituer progressivement les équipes et étape par étape, il faut construire les équipes de management qui sont capables de tirer cette croissance. La force de Balieu, c'est une équipe de collaborateurs exceptionnels qui sont répartis sur les 3 continents. On en a à Singapour, on en a à Boston et on en a à Paris. Et c'est des gens qui sont extraordinairement engagés au service de l'entreprise et au service des clients. Et cette équipe, eh bien, la constituer, la faire grandir, c'est notre sujet du quotidien. Et la difficulté de la croissance dans une organisation comme la nôtre, c'est de faire grandir ces équipes sans les casser.
On parlait de ces différentes zones. Aujourd'hui, la croissance principale, elle est où ? Est-ce qu'on en parle chez nous ? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de commandes par Internet. Mais est-ce qu'il y a des zones qui sont vraiment demandeuses aujourd'hui plus rapidement que d'autres ?
Notre croissance, elle est indépendante du développement du commerce électronique. Le commerce électronique a nécessité l'automatisation de la préparation de commandes, mais notre métier à nous, c'est encore une fois, c'est le mouvement des palettes. Donc, c'est indépendant de la façon dont le produit est distribué. C'est à peu près partout dans le monde, et en particulier là où la main d'œuvre est chère, parce que en général, la main d'œuvre chère vient avec des gens qui sont de plus en plus compétents et qui ont une volonté de faire des métiers à plus haute valeur ajoutée que juste conduire une machine. Et donc, ces pays ont depuis longtemps tirer la robotique pour permettre de libérer leurs collaborateurs à la fois pour faire des économies et à la fois pour leur confier d'autres tâches. Donc on va voir ça surtout en Europe de l'Ouest, on va voir ça un peu aux États-Unis, en Asie, dans les pays qui sont très développés.
On parlait de cette introduction en bourse, donc vous avez levé des fonds. Aujourd'hui, les fonds, bien sûr, ont servi à un certain nombre de développements. Est-ce que aujourd'hui, vous avez des investissements prioritaires ?
Nos investissements, ils sont sur notre cœur technologique et sur le développement commercial de l'entreprise. On focalise 100% de notre énergie là-dessus pour livrer la croissance telle qu'on l'a prévue au plan.
Et vous disiez tout à l'heure, il y a eu ce qui s'est passé sur le cours de bourse, mais par rapport au plan initial qui avait été présenté aux investisseurs, vous êtes confiant sur le moyen de les délivrer ?
On est un petit peu en retard sur le 2018 qu'on avait dans notre plan, mais pas violemment en retard. On est 10% en retard sur notre plan et on a consommé un petit peu plus de cash sur 2018 que ce qu'on avait prévu. Mais encore une fois, c'est des ordres de grandeur qui sont faibles au regard du potentiel de croissance de la société. Et quand on regarde notre perspective, on a donné une guidance 2022 à 200 millions. Que je la regarde de façon top-down, c'est-à-dire en partant du marché et en descendant, ou bottom-up, en partant des clients et en montant, voir ce qu'on peut faire. Dans les deux cas, j'arrive à des chiffres qui sont très significativement plus élevés. 200 millions de chiffres d'affaires pour nous, c'est un taux d'automatisation. C'est-à-dire que le pourcentage de chariots de manutention qui serait automatique de 3%. Ça, vous imaginez qu'en 2022, vous savez, l'année où vous aurez tous des taxis autonomes, hein, à ce moment-là, il n'y aura que 3% des véhicules qui seront automatiques. C'est une blague. Il y en aura évidemment beaucoup plus que ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que notre guidance à 200 millions, elle est prudente. Alors maintenant, quand je le prends par la croissance année à année près de la société, c'est un sacré challenge à livrer. Mais c'est quelque chose qui est complètement accessible parce qu'on a devant nous un marché dont les fondamentaux sont absolument colossaux. Il s'appuie sur une transformation engagée de la société sur laquelle on ne fera pas machine arrière.
Merci Fabien Bardinet d'avoir fait le point avec nous.
Et ben merci de m'avoir invité.